Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Carnet de Région, le magazine collaboratif des radios associatives et non commerciales de Languedoc-Roussillon. Au sommaire de cette semaine, Arnaud Montebourg, candidat à la primaire de la gauche, était en visite dans l'Hérault. Radio Pays d'Hérault a suivi son déplacement. L'Université de Montpellier propose un nouveau diplôme sur les enjeux de défense et de sécurité, un sujet auquel s'intéresse Radio Aviva. Toujours dans l'Hérault, RCF Maguelone Hérault a suivi l'association Sac à dos qui renouvelle son action envers les personnes sans-abri. En Lozère, cette semaine, la sociologue Sylvie Cromer est intervenue dans le cadre de journées d'échange sur les inégalités hommes-femmes, organisées par le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. 48 FM l'a rencontrée. En Cévennes-Gardoise, l'Association pour la préservation de la vallée de la Salindrinque est inquiète pour l'atteinte à l'environnement d'un parc de loisirs aquatiques implanté dans un camping, un sujet de Radio Escapade. Et pour finir, Radio Alliance Plus nous informe sur la quatrième édition du Nîmes Open Game Art. On attaque ce carnet de région dans l'Hérault où Arnaud Montebourg, sixième candidat déclaré à la primaire socialiste, y était de passage. Sarah Guillemant de Radio Pays d'Hérault l'a rencontré à l'occasion de sa visite à la cave coopérative de Montagnac.
Arnaud Montebourg découvre le département au pas de course, campagne oblige, et lors du rendez-vous matinal avec les viticulteurs de la cave coopérative de Montagnac, les annonces n'ont cessé de pleuvoir.
La viticulture française, c'est un point d'appui considérable pour l'exportation et c'est de l'emploi agricole sur les territoires. Et dans cette région, le Languedoc, le Roussillon, nous avons là des richesses considérables et nous ne voulons pas les perdre. Le vignoble du Languedoc-Roussillon a subi des réductions de surface, a perdu beaucoup de viticulteurs. Pourtant, nous avons des atouts considérables. Donc un État fort et protecteur qui est capable de garantir des prix, qui est capable d'organiser des alliances entre le négoce et la production, entre la grande distribution et les producteurs, c'est un État qui peut garantir le redémarrage d'un grand nombre d'exploitants.
Il prône un retour à l'État providentiel, à une labellisation française des produits. Bref, Arnaud Montebourg en Monsieur Made in France, rien de très nouveau jusqu'ici. Mais ce lundi, tout le monde ne parle que d'une chose, la candidature de Manuel Valls est la plus question de parler de vin local. Il se pose directement en adversaire franc.
C'est la candidature des gauches irréconciliables. Pour ma part, ma candidature est celle des gauches réconciliées. Pour moi, il n'y a pas de salut pour le peuple de gauche qui est toujours là. Il est en colère, il se sent trompé, berné. Et pourtant, il n'a pas l'intention de rester chez lui à regarder la confrontation entre l'ultra-libéral François Fillon et la famille Le Pen. Nous pouvons jouer un rôle dans cette histoire si nous sommes capables de nous unir. Voilà pourquoi la proposition que je formule, ce n'est pas la théorie des gauches irréconciliables, c'est l'action concrète pour réconcilier les gauches. Donc je défends une stratégie de programme commun avec l'ensemble des forces de gauche, Jean-Luc Mélenchon y compris, le Parti communiste français y compris, Yannick Jadot et les Verts, bien entendu.
Un appel à l'union des gauches contre François Fillon et Marine Le Pen, mais peut-être aussi et surtout contre Manuel Valls.
L'Université de Montpellier propose un diplôme sur les enjeux de défense et de sécurité, premier diplôme universitaire de ce genre en France. Son objectif est de sensibiliser les étudiants aux enjeux de défense civile et militaire et de mieux faire connaître les services de sécurité. Christophe Chezat, responsable pédagogique du diplôme, revient sur sa genèse.
C'est un protocole qui a été signé depuis 2007 et qui a été à nouveau signé en 2012 et 2016. Et l'idée, c'était de, entre le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la Défense, de développer l'esprit de défense. Dès lors, au niveau de l'Université de Montpellier, on a décidé, avec le président, de mettre en place un diplôme de manière à valider un parcours volontaire de la part des étudiants et en revanche de jouer la carte de la sensibilisation. Ce diplôme s'adresse vraiment aux néophytes. Et deuxième particularité, c'est qu'il s'adresse à n'importe quel étudiant de n'importe quel niveau ou n'importe quelle discipline de l'université.
Le contexte actuel concorde avec l'objet du diplôme universitaire. Une année d'enseignement sur des thématiques telles que le fonctionnement des services de sécurité nationale et de défense, la justice ou encore la cybercriminalité.
40 heures sur l'ensemble du diplôme, donc c'est quelque chose de vraiment très léger. Il n'y a pas une fréquence dédiée. On a étalé ça en fonction de la disponibilité des différents experts là, qui vont intervenir. Les conférences ont lieu en fin de journée et c'est un diplôme qui mêle le côté, j'allais dire, théorique au sens de présentation générale et à côté de ça, des visites sur le terrain.
Cette année, la première promotion compte 30 étudiants au profil varié. Elle s'est avérée être un grand succès, un succès qui pourrait se représenter l'année prochaine. C'était un sujet d'Ereari Souming de Radio Aviva. L'association Sac à dos renouvelle son action envers les sans-abri. Pour la 12e année consécutive, elle invite les particuliers à constituer des sacs à dos pour les plus démunis. À l'intérieur, 4 kits, kit chaleur avec vêtements chauds, kit hygiène, kit festif avec friandises et kit culture. Une opération nécessaire et qui concerne de plus en plus les jeunes. Thomas Lauré de RCF Maguelone Hérault.
Séance de présentation au Club de la Presse de Montpellier, un des principaux points de collecte de l'association. Thierry Tolade, cofondateur de Sac à dos, ouvre un des sacs confiés par un donateur.
Grand sac de randonnée, style 40-50 litres, parce que les sans-abri transportent toute leur vie sur leur dos et le sac à dos sert à ça.
À l'intérieur, il y a bien les 4 kits.
Qui correspondent bien à un besoin bien déterminé du sans-abri. Celui auquel on n'aurait peut-être pas pensé, c'est le kit culture et communication. De quoi lire, pouvoir écrire aux administrations pour le renouvellement du RSA ou des choses de ce type.
Chaque année, le nombre de demandes augmente, selon Pascal Parot, autre cofondateur de l'association.
Dans l'Hérault, il y a eu l'année dernière environ 800 bénéficiaires et en France, il y a eu environ 7000 personnes qui ont bénéficié des sacs à dos.
Et parmi les bénéficiaires, il y a de plus en plus de jeunes.
Soit parce qu'ils sont en rupture familiale, soit parce que leurs parents sont décédés, soit parce que leur orientation sexuelle ne plaît pas à leurs parents qui les mettent dehors, soit parce qu'ils ont été en échec scolaire.
Les jeunes font aussi partie des principaux donateurs. L'association a reçu l'agrément de l'éducation nationale pour intervenir dans les collèges et les lycées. Pascal Parot.
Et ils prennent effectivement conscience de ce que c'est que la précarité et d'être dans la rue, la difficulté, la violence psychologique que c'est d'être dans la rue.
En tout, ce seront entre 7 et 8 000 sacs à dos qui seront distribués aux sans-abri partout en France entre Noël et le Nouvel An.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Cette semaine, à l'initiative du CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, deux journées d'échange en préfecture de Lozère ont permis d'évoquer l'égalité homme-femme. Différents invités ont été conviés à partager leurs expériences, que ce soit dans le milieu éducatif, le recrutement ou encore les stéréotypes liés au sexe. Point d'orgue, la venue de Sylvie Cromer, maître de conférence en sociologie à l'université de Lille 2. D'après elle, les différences entre garçons et filles sont marquées dès le plus jeune âge. Elles vont par la suite entretenir des inégalités entre hommes et femmes.
Aujourd'hui, on n'a qu'à regarder, puisque c'est la période, les catalogues de jouets. On se rend compte qu'il y a des pages pour les filles et pour les garçons. Et donc, très jeunes, on fait une différence entre les filles et les garçons. Et depuis maintenant, les années 2000, de nombreuses études existent sur le sujet, que ce soit sur la littérature de jeunesse, sur les jouets, sur les activités sportives ou culturelles, qui ne sont pas les mêmes pour les filles et pour les garçons. Alors on va se rendre compte que cette façon d'éduquer les filles et les garçons va créer des attentes différentes, va créer des compétences différentes qui vont forger des destins différents pour les filles et les garçons et créer, entretenir des inégalités entre les hommes et les femmes. Ces stéréotypes qui vont être diffusés dans la société, qui sont diffusés par des biais divers, hein, que ce soit les manuels scolaires, les productions culturelles, mais la publicité, par exemple, effectivement, entretiennent une idée de dévalorisation du sexe féminin. Mais ce qui va être aussi important, c'est de voir aussi que le monde professionnel lui-même crée aussi des inégalités. Donc, tout ne vient pas de la famille.
Une nouvelle fois, c'est la peur de perdre ses privilèges qui bloque l'égalité entre hommes et femmes.
Dans l'égalité, certains peuvent avoir peur de perdre des privilèges. Comme je dis toujours, si effectivement on avait des assemblées paritaires, ça veut dire qu'effectivement il y a des hommes qui doivent laisser leur place. C'est la même chose à la tête d'entreprise, mais ça veut dire qu'effectivement il y a des gens qui doivent quitter leur privilège. Une deuxième chose qui peut nous faire peur, c'est me semble-t-il, c'est le fait que on croit que au fondement de notre identité, il y a la différence des sexes. Or je crois que notre identité, elle est beaucoup plus plurielle et plus riche que sur le fait de reposer sur le fait qu'il y ait qu'on soit fille ou garçon. Et donc je crois qu'il faut arriver à travailler sur ce point-là en disant que notre identité est beaucoup plus complexe et ne repose pas seulement sur ce fait-là. Ce que je crois, peut-être un peu naïvement, mais que c'est que l'égalité pourrait nous donner plus de bonheur.
C'était un sujet de Ludovic Terrol de 48 FM. Nous prenons la direction à présent des Cévennes gardoises, non loin d'Alès. L'association pour la préservation de la vallée de la Salindrinque s'inquiète du rachat du camping Filament par la société Capfun. Elle y projette de nouvelles infrastructures de loisirs aquatiques, toboggans et piscines qui altèrent l'environnement, le paysage et les ressources en eau, selon Norbert et Christine Chautard, membres de l'association qui habite en face du camping.
On est soucieux du devenir de cette vallée. Et donc, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on essaye de réfléchir comment ce camping, est-ce qu'il est compatible avec cette vallée, est-ce qu'il est compatible avec les Cévennes. À chaque nouveau propriétaire, il y a au moins un an de tractation pour qu'ils descendent le bruit, pour les problèmes de pollution. Cette année, on n'a pas su qu'ils avaient changé de propriétaire. Et au mois de juin, on s'est retrouvé avec des magalos qui venaient outrageusement saccager le paysage au bord de la route en arrivant là-bas. Et on apprend qu'ils ont déposé un permis de construire pour agrandir une piscine, pour réaliser un certain nombre de choses. Ce n'est pas uniquement les gens de la vallée qui sont en face, qui sont impactés par le bruit, qui sont embêtés par le bruit.
Et la vue.
Mais c'est tout l'ensemble de 500 personnes, maintenant on est plus que 500 personnes, qui disent « mais on connaît bien cette vallée, ils nous embêtent, ils nous foutent en l'air la vallée ». La vallée n'est pas uniquement la propriété ni du camping, ni des voisins.
Le camping n'est ouvert que en été ou il est ouvert pendant d'autres saisons, vous pouvez m'en dire
Le camping est ouvert que l'été, tu as raison, mais là probablement ils ont proposé d'ouvrir le camping à une marge plus grande. Donc, on ne connaît pas les projets de Capfun. Il faudrait que vous alliez sur Capfun, voir que c'est une multinationale qui a 95 campings en France, plus en Espagne, plus en Italie, plus en Belgique. Est-ce que leur projet, c'est de se dire, on veut faire un camping intégré dans les Cévennes? On est dans la zone, ce qu'elle appelle aire d'adhésion. Avant, ça s'appelait la zone périphérique du parc national des Cévennes. Toiras fait partie de cette aire d'adhésion, a signé une charte de paysage, une charte au niveau de l'environnement, au niveau de la qualité de l'environnement. Est-ce que éventuellement, et peut-être pourquoi pas, la charte du camping est compatible avec la charte du coin?
Au-delà du cas particulier du camping Filament, Norbert Chautard dénonce une Disneylandisation des Cévennes, faisant la promotion d'un tourisme hors sol comme déconnecté des spécificités du territoire. L'association pour la préservation de la vallée de la Salindrinque ne souhaite pas la fermeture du camping Filament, mais souhaite que ses activités s'adaptent à l'environnement et au respect des habitants locaux.
Je ne suis pas contre qu'il y ait un camping qui a sa place, mais un camping, soit on est dans une propriété privée. Moi, ici, je suis chez moi, propriété privée, je peux éventuellement faire un certain nombre de travaux, et même au niveau de l'assainissement de la maison, on va venir contrôler avant que je bouge le trou si l'assainissement est bien fait, on va venir contrôler au niveau de l'eau, on va venir contrôler au niveau du paysage. Là, on se retrouve aussi dans quelque chose de privé, mais qui a un impact sur l'ensemble de l'environnement, c'est quelque chose d'énorme, qui prend une place énorme dans le territoire, visuellement. Et qu'un camping avec un toboggan qui dépasse les arbres et qui sont des couleurs criardes et qui, nous, on n'a pas l'habitude de voir ça dans les Cévennes, est-ce que c'est compatible avec une réflexion, une éthique sur l'environnement et sur le paysage?
Parce qu'en plus, les infrastructures au niveau de l'eau, au niveau de tout ça, elles ne sont pas faites pour recevoir 2000 personnes. Il faudrait revoir tout ça avant d'accepter.
Au niveau de l'eau, comment ça se fait? Mais ça, c'est pas un problème. On peut s'arranger, peut-être. Mais pourquoi je ne peux pas prendre de douche le matin quand les gens de douche? On n'a plus d'eau ici. On n'a plus d'eau pendant 2 mois et demi de l'année, c'est normal? Non, c'est normal, parce que là, ils sont 1000, nous, on est 4.
Un entretien préparé et réalisé par Ryan Saoud en stage de découverte de 3e à Radio Escapade et Pierre Isnard-Dupuis, journaliste à Radio Escapade.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Voici venir la fin du carnet de région en culture dans le Gard. Le Nîmes Open Game Art se tient du 9 au 17 décembre dans le réseau des bibliothèques de la ville de Nîmes. La thématique de cette 4e édition du NOGA, c'est son petit nom, est consacrée au corps augmenté, aux jeux vidéo, au handicap et à l'e-santé. Julien Fabre, co-organisateur avec Alexandre Simonet du NOGA, présente les temps forts de ce festival entièrement gratuit. Des ateliers sur inscription dans la limite des places disponibles, des rencontres, des tournois et autres conférences et expositions. L'événement est unique dans le monde du jeu vidéo.
Mais la spécificité, c'est que contrairement à ce qui se fait beaucoup en France, Il ne s'agit pas d'un salon, mais bien d'un festival, d'où le fait qu'il dure légèrement plus longtemps. On n'est pas sur une forme d'un week-end, mais on est vraiment sur une semaine complète. La spécificité, c'est que du coup, on promeut le jeu vidéo comme un objet culturel. Il n'y a pas de volet commercial derrière. Tout ce qu'on propose est gratuit. Tout ce que l'on propose sur place est accessible gratuitement aussi, dans la mesure des places disponibles. Il n'y a pas d'entrée payante. Et effectivement, on propose une approche qui est plus critique, plus culturelle que la mise en avant des gros blockbusters jeux vidéo. Et effectivement, chaque année, on attribue une thématique. Cette année, c'est la relation entre le jeu vidéo, le handicap et la e-santé. Puisqu'effectivement, grâce à la création numérique et grâce aux jeux vidéo, il y a beaucoup d'innovations dans ces secteurs-là. Et en fait, le festival propose de faire le point.
Donc, il y aura des conférences hein, de professeurs du CHU, aussi, puisque le jeu vidéo est utilisé vraiment dans la rééducation.
C'est ça. Alors, ce sont des conférences de vulgarisation. On essaye à chaque fois d'associer un professeur ou un médecin du CHU. On essaye d'y associer une personne qui est issue de l'industrie vidéoludique ou de ce qu'on appelle la culture geek, un youtubeur ou quoi que ce soit, pour que, effectivement, l'accès soit vraiment pour le plus grand nombre et que ça ne soit pas quelque chose uniquement auto-centré sur les futurs médecins. Et effectivement, les chirurgiens, notamment, ou alors les kinésithérapeutes, utilisent énormément de jeux vidéo aujourd'hui pour mieux rééduquer. On s'est rendu compte que via le prisme de ce qu'on appelle la rééducation et la gamification de la rééducation, en fait, les patients se rééduquent mieux. C'est beaucoup plus simple lorsqu'il y a un aspect ludique de prendre plus part à la chose, de s'investir un peu plus. Et du coup, les patients se rééduquent mieux. Et puis, ça permet aussi de rendre accessibles différents éléments qui sont nécessaires à la réadaptation aussi, plus que de la rééducation. Je prends l'exemple des maladies lombaires. Souvent, on pense que lorsqu'on a mal au dos, il ne faut rien faire. Au contraire, il faut beaucoup bouger. C'est totalement l'inverse. Et justement, grâce aux jeux vidéo, à différentes formules avec ce qu'on appelle les Kinect ou les casques de réalité augmentée, les gens peuvent être amenés à bouger sans forcément sortir de chez eux et déjà faire un petit peu plus d'exercice. C'est l'avenir sur du moyen terme, on n'y est pas dessus de suite. Mais effectivement, c'est l'avenir, que ce soit l'utilisation du jeu vidéo dans les milieux médicaux ou l'utilisation de ce qu'on appelle la création numérique et les dernières innovations numériques. Aujourd'hui, par exemple, on a 2 doigts de redonner la vue aux patients qui l'ont perdue grâce à des systèmes qui vont stimuler la rétine et créer des réalités virtuelles qui s'approchent au mieux de la réalité tout court. On essaye, pour parler un peu vulgairement, de ne pas se prendre la tête non plus. Ça en fait vraiment de la vulgarisation et on essaye aussi de faire la fête, d'où la journée clôture à Paloma le 17 décembre, qui accueille donc la clôture du festival en présence de Kayane, qui est une icône de la culture geek, où on va jouer beaucoup, beaucoup aux jeux vidéo. Il y a 250 m² d'espace de jouabilité. Où à la fois on va proposer justement les titres phares du moment pour que le public puisse se détendre et s'amuser, et puis une sélection plus particulière de jeux qui ont été créés pour le festival et qui sont en lien avec le handicap et la e-santé. Paradoxalement, ça devait être une édition un petit peu plus réduite, eu égard à la réhabilitation du bâtiment Carré d'Art qui nous offrait moins de possibilités pour accueillir les différentes composantes de la manifestation. Et bon, on est incorrigible parce qu'au contraire, c'est la manifestation la plus importante en termes de programmation. Effectivement, vous l'avez souligné, multisite. Il ne faut pas oublier Créageu aussi, qui a accueilli la Game Jam, où pendant 48 heures, on crée des jeux vidéo pour aider les différents pôles du CHU de Nîmes dans leurs besoins. Et ces jeux vidéo seront testés à la journée de clôture à Paloma. On va y lire le meilleur proto-Noga. Et ce prototype-là de jeux vidéo sera ensuite réutilisé par le CHU, financé pour devenir un vrai jeu vidéo utilisé par les patients du CHU. C'est sous cet angle qu'on l'a construit. C'est vrai que la culture vidéoludique, avant, c'était considéré comme une culture un peu underground. Et on avait la caricature du nerd qui n'était pas très sociable et puis qui se recroquevillait dans les univers jeux vidéo. Puis après, c'est devenu une culture émergente. Aujourd'hui, c'est la culture qui a pris le pas sur les autres cultures. Et ce qui est important aussi, c'est de rappeler qu'il y a de tout dans le jeu vidéo. Il y a du moins bon, mais il y a surtout du très bon. Et que l'âge moyen aujourd'hui du joueur de jeux vidéo, c'est 35 ans. Désormais, les jeunes générations sont nées avec le jeu vidéo, se débrouillent très bien. Je prends souvent l'exemple de l'enfant de 6 ans qui se débrouille aussi bien avec une tablette, alors que pour un adulte d'une soixantaine d'années, c'est parfois compliqué. Mais aujourd'hui, l'âge moyen, c'est 30 ans, donc on est en plein, voilà, on est en plein dans le jeu vidéo.
Le Nougat 2016, du 9 au 17 décembre à Nîmes, est un festival multisite dans les bibliothèques, le CHU et la salle Paloma. Un festival laboratoire, mais aussi une fête, un événement majeur spécifique pour affirmer à toutes les générations que le jeu vidéo et la création numérique sont devenus incontournables dans la société. Un sujet de Sylviane Vichegros et Sylvain Loury de Radio Alliance Plus. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute de ce carnet de région. Merci à toutes les radios qui y ont contribué. Il vous a été présenté par Pierre Isnard-Dupuis de Radio Escapade. La semaine prochaine, pour le dernier numéro de décembre, avant la pause de Noël et donc dernier numéro de l'année, c'est encore moi qui aurai le plaisir de vous retrouver sur votre radio. D'ici là, portez-vous bien.
Carnet de région.
Héros.
Aude,
Gare,
Héros,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère,
Aude.
L'actualité en langue de Roussillon.